RFI, dans 5 minutes, notre invité, le Premier ministre gabonais, à 2 jours d'un référendum crucial dans le pays. Mais d'abord, la revue de presse. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, au Soudan, la guerre oubliée.
Oui, c'est sans doute le conflit le plus dévastateur du moment, mais il passe largement sous les radars de la diplomatie, des médias et des protestations populaires, relève Le Monde Afrique. Il s'agit de la guerre civile au Soudan, une guerre qui a probablement causé la mort de plus de 150 000 civils du fait des bombardements et des massacres, de la famine et des épidémies qui s'ensuivent. Cette guerre a obligé 13 millions de personnes, soit près d'un habitant sur quatre, à fuir de chez elles. Depuis 18 mois, les FSA, les forces armées du Soudan, dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les FSR, les milices paramilitaires des forces de soutien rapide, menées par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, ont entraîné ce pays de 49 millions d'habitants dans une spirale de violence dont personne n'entrevoit le dénouement. Et le monde Afrique de hausser le ton, ce long cauchemar des Soudanais doit cesser. Cela suppose de bloquer le flux continu d'armes qui alimentent les protagonistes et de reprendre le chemin de la médiation abandonné en octobre. Il est courant de citer l'Ukraine ou encore le Proche-Orient, comme les deux guerres en cours les plus préoccupantes, la moindre des choses serait de ne pas oublier celle qui ravage le Soudan.
Justement, pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan, il y a plus d'un an et demi, un groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies est à Port-Soudan.
Oui, une visite de 3 jours qui vise à examiner la situation sur le terrain. Ça n'est pas trop tôt, s'exclame le pays au Burkina Faso. Plus de 18 mois, c'est le temps qu'il aura fallu donc aux Nations Unies pour envoyer une délégation d'experts au Soudan, où la guerre fait rage. Qui plus est, pointe le quotidien ouagadougou, rien ne garantit que cette visite des experts onusiens permettra de faire bouger les lignes dans le sens de la désescalade tant espérée. Autant dire que c'est une mission pour se donner bonne conscience, car en 3 jours, on ne voit pas ce que ces experts peuvent poser comme acte concret sur le terrain pour changer la donne. On est d'autant plus poussé au pessimisme, soupire encore le pays, que l'objectif de cette mission est de rencontrer les instances nationales chargées de l'application d'une vieille décision des Nations Unies, en l'occurrence la décision 1591 qui date de 2005 et qui porte embargo sur les armes au Darfour. Une situation qui en dit long sur le fonctionnement de l'organisation mondiale qui fonde pourtant les espoirs des plus faibles. C'est pourquoi, conclut le quotidien burkinabé, au-delà de cette mission, on attend de voir comment l'ONU pourra se sortir du bourbier soudanais.
Certes, constate le site afrique.com, la délégation onusienne entend examiner de près les défis actuels à l'application de cette résolution.
Mais non sans dialoguer avec les responsables de la sécurité soudanaise et les organisations locales, en incitant les acteurs locaux à trouver un consensus. L'ONU espère promouvoir une désescalade des tensions et la mise en place de mesures de stabilisation. Le Conseil de sécurité envisage de présenter un rapport détaillé à l'issue de cette mission de terrain qui devrait servir de base pour de futures décisions. D'après plusieurs sources diplomatiques, relève encore Afrique.com, ce rapport pourrait recommander des ajustements à cette fameuse résolution 1591, notamment en matière de sanctions ciblées et d'embargo sur les armes pour mieux répondre aux nouvelles réalités du conflit.
Enfin, on revient au Monde Afrique qui publie, outre son éditorial, toute une série de reportages consacrés à cette guerre civile dévastatrice.
Et cet entretien avec Mo Ibrahim, le milliardaire anglo-soudanais, estime que le Conseil de sécurité de l'ONU devrait s'impliquer davantage dans cette guerre civile au Soudan. L'Afrique, dit-il, doit demander aux Nations Unies l'envoi d'une force internationale pour protéger les Soudanais. Le Conseil de sécurité doit adopter une résolution très claire qui doit permettre d'assécher les sources d'approvisionnement en armes et en financement des deux camps à travers, par exemple, un nouvel embargo sur les armes. Une résolution qui permet aussi d'établir des zones protégées. Le Conseil de sécurité est polarisé entre l'Occident et la Russie et parfois la Chine, constate Mo Ibrahim. La solution doit donc venir des membres africains du Conseil. Si l'idée d'une résolution vient du continent, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie n'opposeront leur veto.
Frédéric Couteau pour la revue de presse Afrique ce matin.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
L'actualité de ce jeudi aux États-Unis, Donald Trump continue de préciser les contours de sa future équipe. Marco Rubio sera en charge de la diplomatie, le sénateur de Floride, républicain réputé hostile à la Chine et à l'Iran. Pour diriger les renseignements, Donald Trump a choisi Tulsi Gabbard, ancienne militaire originaire de Hawaï et transfuge du Parti démocrate. Elle a critiqué l'interventionnisme militaire des États-Unis. Donald Trump, reçu hier par Joe Biden, la transition sera la plus fluide qui soit, a dit dit le président américain. Dans un rapport publié aujourd'hui, Human Rights Watch estime que les ordres d'évacuation à répétition de l'armée israélienne dans la bande de Gaza mènent à des déplacements forcés, ce qui est constitutif d'un crime de guerre. Ce soir, en France, match sous haute tension, France-Israël, dans le cadre de la Ligue des Nations. 4000 membres des forces de l'ordre mobilisés, cela intervient une semaine après les violences survenues à Amsterdam en marge d'un match du Maccabi Tel Aviv. L'actualité en France, c'est aussi les réquisitions du parquet dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National. 5 ans de prison, dont 2 ans ferme requis, et une peine d'inéligibilité de 5 ans, ainsi que 300 000 euros d'amende à l'encontre de Marine Le Pen. Celle-ci dénonce la violence et l'outrance des réquisitions. À Bakou, la COP29 continue, et pendant ce temps, en Espagne, l'Agence météorologique nationale a placé jusqu'à ce jeudi midi, la région de Valence, le littoral, en alerte rouge face à de nouvelles pluies torrentielles. Le danger est extrême, a dit cette agence qui préconise d'éviter les déplacements.
RFI à Libreville, 104 FM.
Et c'est dans 2 jours, samedi, que les électeurs du Gabon décideront si oui ou non ils valident le projet de nouvelle constitution, dedans notamment l'instauration d'un régime présidentiel avec mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Et lui soutient fermement le oui. Le premier ministre gabonais, également coordinateur national de la campagne pour le oui, justement, Raymond Ndongsima, est notre invité Afrique ce matin. Il nous dit pourquoi les Gabonais devraient voter oui dans 2 jours et tente de rassurer dans le même temps les partisans du non. Il le dit à Esdras Dikoumana.
Raymond Ndongsima, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi, selon vous, cette constitution est-elle bonne pour le Gabon ?
En premier lieu, nous sommes dans une situation transitoire depuis maintenant 14 mois et qu'il faut bien sortir de la transition pour aller vers une situation normale. Or, je rappelle que la constitution qui est en vigueur lorsque les militaires prennent le pouvoir le 30 août, c'est une constitution de 2023 qui comportait un ensemble d'anomalies, pour ne pas dire d'infamies. Donc oui, c'est une constitution qui est bonne, il faut bien en sortir.
L'une des dispositions les plus controversées de ce projet de constitution est celle qui instaure un régime présidentiel jugé très fort. Les partisans du non parlent de l'intronisation d'un monarque au pouvoir. Quelle est votre réaction ?
Je suis mal à l'aise sur ce point précis, pour la raison très simple que je suis Premier ministre en fonction et que ce point-là précisément conduit à la suppression du poste de Premier ministre. Mais je rappelle que 2 de mes anciens prédécesseurs à la fonction de Premier ministre ont indiqué que pour eux, il fallait supprimer la fonction de Premier ministre parce que celui-ci avait des pouvoirs fictifs, donc il valait mieux établir une clarté dans la liaison entre les pouvoirs décrits et les pouvoirs exercés. Donc dès lors que le plus gros des personnes qui sont concernées se prononcent en faveur de quelque chose, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais. Je pense qu'on est en train de faire des jeux de mots, mais la réalité est que le président de la République disposait déjà de tous les pouvoirs qu'il a aujourd'hui et qu'on clarifie purement et simplement.
Le président peut, par exemple, dissoudre l'Assemblée, mais le Parlement n'a que la haute trahison comme moyen de pression contre lui. Est-ce que ce déséquilibre des pouvoirs n'est-il pas dommageable ?
Écoutez, tous les cas de figure sont dommageables. On peut imaginer que telle situation soit dommageable. Moi, j'ai indiqué, écoutez, dans mes interventions dans la campagne, j'ai dit clairement que nous sommes dans un cas de figure où il faut prendre une décision à un moment donné. Nous verrons bien à la pratique si ça pose des problèmes, comment on fait pour revenir dessus.
Est-ce que finalement le Gabon ne court-il pas le risque de connaître les mêmes travers que sous le régime déchu, les mêmes causes produisant les mêmes conséquences ?
Oui, c'est possible. C'est toujours possible dans tous les cas de figure au monde qu'on retrouve les mêmes travers. Mais est-ce que nous pouvions rester dans une position transitoire infinie ? Quand on a un texte qui fait 175 articles, est-ce que vous croyez qu'on peut tomber d'accord sur les 175 articles ? À un moment donné, il faut bien sortir de la transition. Et c'est vrai qu'il y a des points qui peuvent poser problème, mais à la pratique, on verra comment ils vont se déployer, comment ils vont se dérouler.
L'ancien Premier ministre Billy Binze qualifie cette constitution de texte d'exclusion. Il cite notamment la question de la limitation d'âge de 35 à 70 ans pour être candidat à la présidentielle ou encore l'impossibilité pour les descendants d'un chef d'État d'être candidat. Votre réaction ?
Bon, je pense d'abord que Billy Binze est, à mon avis, de tous les Gabonais, celui qui peut le moins s'exprimer sur ces questions tellement sensibles. Je rappelle que M. Billy Binze était l'année dernière Premier ministre. Quand on a été à ce point un fossoyeur de la République en signant en année électorale, à quelques semaines de l'élection, une loi portant modification des dispositions, des conditions de l'élection, on se tait, on ne parle pas. M. l'Élysée est en liberté par la magnanimité de mon gouvernement qui a choisi l'apaisement parce qu'on aurait pu le poursuivre pour forfaiture et violation des lois. La loi disait qu'on ne peut pas modifier le code électoral en année électorale. Et il a contresigné, ça porte sa signature. Alors, on n'est pas bien placé pour venir nous donner des leçons. Je suis désolé.
Le président de transition, le général Oligui Nguema, a dit ne pas vouloir de constitution taillée sur mesure. Mais est-ce que ce n'est pas le cas? C'est ce que certains disent.
Oui, effectivement, les gens peuvent dire que c'est une constitution qui est taillée sur mesure. Non, d'autres peuvent dire que ce n'est pas le cas. Nous verrons bien à la pratique.
Monsieur le Premier ministre, quel est votre objectif en termes de participation qui serait un véritable indicateur de l'adhésion de la population au projet?
Les gens sont habitués à s'engager à une élection. Parce qu'il y a deux protagonistes qui sont là. Là, on a un texte. Les populations de l'arrière-pays n'ont pas forcément une vision très claire de ça. Je pense qu'il pourrait y avoir de ce fait-là une partie de la population qui ne se mobilise pas nécessairement. Je ne suis pas capable de vous donner un tout. Certains s'aventurent dessus. Moi, je ne m'aventure pas. Ce que je veux, c'est une victoire nette. Je conduis le camp du oui. J'ai besoin de gagner nettement. Voilà.
Raymond, donc, Sima. Merci.
Entretien avec Esdras Dikoumana, retrouvé sur notre site RFI.fr. Maman, vous dressez un constat ce matin. La paix, dites-vous, ce n'est pas bon pour les affaires?
Oui, pour paraphraser une réplique culte du cinéma gondouanais, « I don't want peace, I want war, always ». On peut dire qu'aujourd'hui, de par ce vaste et triste monde, la paix est une valeur à la baisse, démodée, surannée, caduque. À la bourse ou au casino, mon ami ne mise jamais sur la paix, elle est perdante à tous les coups. Ainsi en est-il d'une profession très en vogue il y a quelques années, une profession dans laquelle il y avait beaucoup d'appelés et très peu d'élus, une profession qui marchait la main dans la main avec la paix, c'est la profession de médiateur. Médiateur de crise, médiateur de conflit, médiateur médecin avant la séparation, médecin avant l'assaut final, médiateur, le gars qu'il te faut pour arranger les choses. Il y a toutes sortes de médiateurs. Le plus connu est celui qui intervient quand la crise géopolitique a atteint son paroxysme entre ta femme et toi. Quand il n'y a plus de vaisselle à casser, quand dans le dictionnaire il n'y a plus d'adjectifs dégradants à se jeter à la face, quand il n'y a plus un seul de tes voisins qui ne soit pas au courant que tous les jours, ta femme et toi, vous versez vos figures par terre, vous gâtez votre nom dans le quartier, eh ben, c'est là qu'intervient le médiateur de crise conjugale, celui qui va recoller les morceaux entre ta moitié et toi en une seule phrase. Jacqueline, je t'avais prévenu, hein, tu perds ton temps avec ce vaurien, quitte-le. Voilà, la plupart du temps, dans ce genre de crise, ben, le médiateur est une médiatrice, c'est la meilleure copine de ta femme et elle ne t'aime pas. Regarde-le avec sa grosse tête de margouilla, tu mérites mieux que ça, hein, Jacqueline. Mais le médiateur qui nous intéresse aujourd'hui est d'une toute autre trempe. Lui aussi a plusieurs fois été appelé pour éviter une séparation irrémédiable ou une confrontation dévastatrice, une séparation entre président fondateur et l'opposition. Position gondouanaise qui n'a pas accepté sa énième défaite aux élections ou entre président fondateur et les rebelles insurgés qui, la plupart du temps, sont d'anciens opposants fatigués de protester avec la bouche ou des brigands trafiquants ayant trouvé le bon filon pour gagner de l'argent et rouler dans des V8 en ville. Et donc, le médiateur est appelé à la rescousse pour mettre de l'huile, non pas sur le feu, mais dans les rouages. Il apaise, réconcilie, pousse tout le monde à mettre bas à terre. Alors, la question du jour, de la semaine et du mois et demi passé est la suivante. Où sont passés les médiateurs dans le conflit en Ukraine? Il n'y a pas de médiateurs pour Gaza ou Beyrouth? C'est vrai quoi, on dirait qu'ils sont tous partis en exil, les médiateurs, facilitateurs, intermédiaires, conciliateurs, intercesseurs, négociateurs, délégations de haut niveau, diplomates. Ils sont passés où? Partout où on regarde, partout où on tend l'oreille, il n'y a que des pouces au crime qui parlent. Généraux, anciens espions à la retraite, journalistes, experts, spécialistes en tout, ennemis du cessez-le-feu en chemise blanche, parce que la paix... Eh bien, la paix, ça n'est pas bon pour les affaires. À lundi.
À lundi, maman. RFI Matin, ça continue. Dernière heure à suivre. Et dans deux minutes, le journal.
Ce samedi sur RFI, écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
La Côte d'Ivoire possède désormais deux gisements pétroliers et gaziers. Mais quel est le réel potentiel de ce pays doté aussi de ressources minières? Dans la seconde partie de l'émission, focus sur le sommet du G20 au Brésil, comment taxer les plus riches et imposer la transparence fiscale.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Skinny Bang et Toki Shark.
Anywhere you ride, I ain't a water. Me we cock you up, fuck your pamba and I ain't no matter. Baby girl, you act, you call your papa. Want to blow you like a farmer. We for fucking and I can't.
Somebody come and tell you, say they want it. Tell them like, boy, la reine connected. If somebody come and tell you, say they want it. Tell them like, boy, the Afrobeat connected. I tell them, boy, sit down. Sit down.
RFI. Radio Foot International. Du foot, mais pas que.
Il y a ce qui se passe en Angleterre, le climat politique et des tabloïds qui sont très à droite.
Pas que en Angleterre, malheureusement.
Et il y a l'autre part qui est pour moi un vrai débat. Est-ce qu'un entraîneur d'une sélection nationale peut être un étranger par rapport à cette sélection ?
Radio Foot International, du lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU sur RFI.
Vous êtes tous très optimistes sur une victoire ?
Non, non, non.
Non ?
Oui, non.
Ah oui.
Jessie B, la lauréate du prix Découverte RFI 2023, sera en concert dans le cadre de sa tournée africaine en partenariat avec RFI et l'Institut français.
Retrouvez Jessie B les 15 et 17 novembre à Goma.
Plus d'infos sur le site de l'Institut français de votre pays et sur la page du prix Découverte sur le site RFI Musique.